On va commencer donc cette session sur donc autour des conditions, comme je vous disais, de production, de circulation, avec le niveau évidemment décisif des acteurs, de leur situation d'action, donc ce niveau dont les enjeux méthodologiques, épistémologiques aussi, bien sûr, ne peuvent pas être considérés isolément, même si évidemment il est toujours assez délicat de dépasser le niveau des catégories pour aborder ces objets que sont la musique, est-ce qu'un objet discipline, la littérature ou les arts dits visuels. Donc c'est aussi cette façon qu'on a retenue de faire se croiser cet après-midi des communications autour de la littérature ou des arts visuels ou de l'objet musique. Donc c'est Gisèle Sapiro qui ouvre le bal. Tu vas évoquer le programme de sociologie des œuvres à l'école dans les années 60-70. Toi qui as été étudiante plus tard à l'école, puisque tu as soutenu une thèse en 1994 sous la direction de Pierre Bourdieu sur les écrivains, leurs institutions sous l'occupation. Une thèse qui, moi je peux en témoigner, a profondément enrichi tous les regards portés sur le champ artistique en situation d'occupant occupé. Donc il y a vraiment qui s'est installé comme un ouvrage vraiment majeur dans les études historiques sur l'occupation. Et puis bon, je ne vais pas dérouler la liste de tes publications, elles sont très nombreuses, elles relèvent du champ de la sociologie, de la littérature et de la traduction. Je peux quand même citer La responsabilité de l'écrivain, dernier gros ouvrage paru en 2011. Voilà, donc je te laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup Karine de cette introduction. En fait, ce n'est pas le programme de sociologie des œuvres à l'école, mais c'est au Centre de sociologie européenne que je vais évoquer. Alors la sociologie de la culture s'est développée en France à partir des années 60, principalement à la 6e section de l'école pratique des hautes études, autour notamment de Pierre Bourdieu et de son équipe au Centre de sociologie européenne. Elle incluait un programme de sociologie des œuvres, auquel je vais essayer de consacrer cette communication, pour comprendre les conditions d'émergence de la sociologie de la culture en général et de la sociologie des œuvres en particulier. Il faut les restituer d'un côté par rapport à l'espace des possibles et des pensables dans ce domaine au sein du champ académique de cette époque, de l'autre par rapport aux conditions sociales et politiques plus larges, en l'occurrence la création du ministère des Affaires culturelles et la demande étatique en matière de réflexion sociologique sur la démocratisation culturelle. Alors j'évoquerai ces conditions dans une première partie, puis je me concentrerai sur le programme de sociologie des œuvres et je conclurai par un bref bilan des développements ultérieurs de ce domaine. La notion de culture devient une catégorie d'intervention publique en France en 59 avec la création du ministère des Affaires culturelles par et pour André Malraux. Son institutionnalisation est le fruit d'un long processus étudié par Vincent Dubois, sur lequel je ne reviendrai pas ici. Cette catégorie permet de rassembler des compétences dispersées, beaux-arts, direction du livre, et d'inclure évidemment le cinéma à un moment où ce qu'on appellera bientôt les industries culturelles prennent leur essor. Pour contrer les effets de cette culture de masse largement stigmatisée, le ministère se donne pour référentiel la démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'élargissement des conditions d'accès à la culture légitime pour le plus grand nombre. Rappelons que le personnel du nouveau ministère est constitué par les anciens fonctionnaires coloniaux rapatriés. Rappelons aussi que si du point de vue des politiques publiques, la notion de culture renvoie à ce que la sociologie va définir comme la culture légitime, que l'action étatique contribue en fait à légitimer, la notion de culture prend à cette époque, sous l'égide de l'UNESCO, une acception plus large, empruntée à l'anthropologie, qui devient alors une science dominante, hein, avec évidemment la sortie de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss en 1958. Philosophe de formation, normalien de la promotion 51, agrégé de philosophie en 54, Pierre Bourdieu entreprend d'abord une thèse sur les structures temporelles de la vie affective sous la direction de Georges Canguilhem, avec lequel il a étudié la physiologie et la médecine psychosomatique. De ce projet n'ont subsisté que quelques pages dans l'esquisse d'une théorie de la pratique sur la correspondance entre le langage dans lequel sont exprimées les émotions et les manifestations somatiques qui s'y rapportent. En effet, à partir de 1955, il part accomplir son service militaire en Algérie et commence à s'intéresser à la société algérienne. Il publie en 1958 un « Que sais-je ? Sociologie de l'Algérie ». Et puis il est assistant à l'université d'Alger de 1958 à 1961 et il réalise plusieurs enquêtes ethnologiques sur la société traditionnelle, sur les sous-prolétaires en milieu urbain, sur les centres de regroupement, sur la société traditionnelle aussi kabyle. Et il devient en fait ethnologue et à son retour à Paris en 1961, il devient l'assistant de Raymond Aron à la Sorbonne, puis est élu maître de conférence à l'université de Lille. Membre du Centre de sociologie européenne fondé par Aron en 59, il devient le secrétaire général en 62, ou peut-être 61, et le directeur adjoint en 64, moment où il entre à la 6e section de l'EPHE comme directeur d'études. Alors Pierre Bourdieu avait élaboré un projet de thèse sous la direction d'Aron qui se voulait une critique des théories de la culture. Ce projet, comme il me l'a dit en entretien, comportait trois parties. Une première sur la phénoménologie du monde social, s'appuyant sur Husserl et Schütz. Une deuxième sur la théorie culturaliste, transposant le modèle saussurien et intégrant aussi bien les travaux d'histoire de l'art Panofsky notamment, que Barthes et le structuralisme de Lévi-Strauss, et puis une troisième sur la praxéologie. S'il n'a jamais abouti, ce projet a articulé les principales références de la sociologie de la culture que Bourdieu allait développer. Il n'a jamais abouti parce que Bourdieu a probablement cessé, en devenant sociologue, de placer le concept de culture au cœur de son approche, trop connoté par le culturalisme contre lequel Bourdieu se définit dès la fin des années 60. Le terme culture, qui était utilisé pour désigner les habitudes culturelles, comme on le voit dans Les Héritiers en 64, sera remplacé par habitus dans ce contexte, et la notion de culture sera réservée à son usage commun plus restrictif, à savoir les biens culturels que Bourdieu définit aussi bien par référence à Cassirer, comme bien, notamment, entre autres, comme biens symboliques. Favorisée par la demande d'expertise étatique et privée en la matière, la sociologie de la culture va devenir une branche de la sociologie qui s'est particulièrement développée en France et notamment au CSE. Les enquêtes et groupes de travail se mettent en place pour étudier aussi bien les univers culturels les plus légitimes, notamment l'art et la littérature, que les pratiques culturelles des classes moyennes et populaires, par exemple l'enquête sur les usages sociaux de la photographie. Dès l'origine, ces approches s'intéressent aussi bien aux conditions sociales de production des biens culturels qu'à leur diffusion et mode d'appropriation. Donc j'évoquais l'enquête sur les usages sociaux de la photographie menée par Bourdieu, Boltanski, Castel, Chamboredon, avec un financement de Kodak Pathé, qui paraît en 65 chez Minuit sous le titre « Un art moyen » dans la collection que Bourdieu a créée chez Minuit, le sens commun. Bourdieu, Darbel et Dominique Schnapper font paraître dans la même collection « L'amour de l'art », ouvrage qui représente les résultats d'une vaste enquête sur la fréquentation des musées, à laquelle beaucoup de jeunes membres du centre ont collaboré. Ces travaux étaient reliés aux recherches menées au CSE sur l'éducation, notamment par l'enquête sur les étudiants et la culture, qui va paraître en 64 chez Minuit sous le titre « Les héritiers » et seront poursuivis dans le cadre d'un vaste projet d'étude des pratiques culturelles et des goûts qui donnera lieu à la distinction en 79. Alors je ne vais pas m'attarder sur ces travaux qu'on classe habituellement plutôt du côté de la sociologie de la culture, car je voudrais me concentrer là sur le programme de sociologie des œuvres. J'ajouterai la publication en 67 du marché de la peinture en France de Raymond Moulin, qui a aussi collaboré à une des enquêtes. Alors si on met à part, et puis elle était en relation avec des gens du centre, alors si on met à part l'approche déterministe d'Hippolyte Taine et le livre de Jean-Marie Guyot, L'art au point de vue sociologique, moins centré sur les œuvres que sur leurs effets, l'émotion esthétique et sur le génie créateur, l'étude sociologique des œuvres apparaît d'abord en Allemagne dans les années 30, dans le cadre des analyses en termes de vision du monde, Weltanschauung, et notamment la sociologie du goût littéraire de Schücking, publiée en 31, la sociologie de la Renaissance d'Alfred von Martin, qui puis chez Weber et Zombart des outils pour étudier la haute bourgeoisie florentine, puis les travaux de Panofsky, exilé aux États-Unis sous le nazisme, et dont Bourdieu publiera en traduction française en 67 Gothic Architecture and Scholasticism, qui est initialement paru en 51. Et donc, dans la traduction, il y a la fameuse postface où Bourdieu théorise pour la première fois le concept d'habitus. Et l'ouvrage de Schücking, diffusé en 1945, je n'ai pas le temps de développer, mais donc il est diffusé en 1945 en traduction anglaise sous l'égide de Karl Mannheim, qui le publie dans sa collection Sociologie chez Routledge, et il est réédité en 1966, et il va marquer la réflexion de Bourdieu. Schücking entend rompre avec l'idéalisme de l'esprit du temps, le Zeitgeist, mais aussi avec le naturalisme scientiste d'un Brunetière, et il propose de substituer à l'explication vitaliste de l'évolution des formes littéraires une explication proprement sociologique, prenant en compte d'une part la position de l'artisan dans la société, de l'autre les caractéristiques du public. Mais c'est après la guerre que l'approche sociologique de l'art et de la littérature va prendre son essor. En France, dès 1947, une chaire de sociologie de l'art est créée à l'EPHE pour l'historien de l'art Pierre-Franck Castel. À une époque où la théorie littéraire, le new criticism et le structuralisme se replient sur l'analyse interne des œuvres, la sociologie de la littérature émerge quant à elle à un pôle, on l'a vu ce matin, marginal du champ académique. C'est un professeur de littérature anglaise, Robert Escarpi, qui publie en 1958 un que sais-je intitulé « Sociologie de la littérature » et qui va développer son programme à l'université de Bordeaux, centré principalement sur une approche externe aux œuvres, à savoir les conditions matérielles de production et de réception du livre, la sociologie des producteurs, les modes de financement de l'activité littéraire, les conditions du travail d'écriture, sans toutefois prendre en compte les conditions de la production de la valeur littéraire. L'approche sociologique des œuvres se développe surtout dans une perspective marxiste, qui déplace aussi l'analyse du niveau singulier au collectif, mais en restant centrée sur les conditions sociales de production et de réception des œuvres. En 1951, tandis qu'en Italie viennent de paraître les cahiers de prison de Gramsci, qui contiennent de nombreux passages sur l'art, l'historien de l'art Arnold Hauser publie son histoire sociale de l'art et de la littérature. L'année suivante paraît l'ouvrage de Lukács, Balzac et le réalisme français. En 1955 paraît en France chez Gallimard Le Dieu caché, donc l'étude sur Racine, du disciple de Lukács, Lucien Goldman, que Lucie l'a évoqué ce matin, chercheur au CNRS, qui était rattaché, qui faisait un séminaire à l'école et qui faisait un séminaire à l'école. En prenant appui sur les travaux de Lukács, Goldman élabore la méthode du structuralisme génétique. Pour Goldman, le vrai sujet de l'œuvre n'est pas l'auteur individuel, mais le groupe social auquel il appartient. La vision du monde du groupe constitue en fait la médiation entre l'infrastructure économique et sociale et les œuvres. Il y a une homologie structurale entre les tragédies de Racine et les pensées de Pascal et la vision du monde janséniste, qui est une expression de la conscience collective de la noblesse de robe. Entre 57 et 61 commencent à paraître en Angleterre les travaux des fondateurs des Culture Studies, The Uses of Literacy de Hogarth, 57, donc qui étudie les romans feuilletons, la réception des romans feuilletons par les classes populaires, et rompant avec l'idée de la passivité des lecteurs manipulés par la littérature de masse, comme le concevait l'école de Francfort. Il parle de, ça a été traduit par lecture oblique. Culture and Society de Raymond Williams sur l'émergence de la notion de culture dans la période romantique, et son livre, ça c'est en 58, et son livre The Long Revolution, en 61, qui traite des effets de la révolution industrielle sur la littérature, suivi de The Making of the English Working Class de E.P. Thompson en 63. Et on trouve des références aux deux livres de Williams, Culture and Society et The Long Revolution chez Bourdieu dès le milieu des années 60, notamment dans son article Champs intellectuels et projets créateurs, publié dans Les Temps modernes en 66, et aussi dans l'article de 71 sur le marché des biens symboliques. Il publiera un article de Williams sur l'invention du paysage dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales qu'il lance en 75. The Use of Literacy est publié en français sous le titre La culture du pauvre dans la collection Le sens commun, avec une préface de Jean-Claude Passeron. Et Bourdieu invitera E.P. Thompson à son séminaire à l'ENS à l'occasion de l'apparition de Whigs and Hunters en 75, en préfiguration de la traduction de plusieurs de ses articles dans l'acte de la recherche en sciences sociales. Dans ce séminaire, parallèle à celui qu'il faisait à l'EHSS, Bourdieu avait également invité Fritz Ringer, auteur de The German Mandarins, qui relevait plus de la sociologie des intellectuels et du monde académique, et Enrico Castelnuovo, qui a publié un bilan de l'histoire sociale de l'art dans Actes de la recherche en 1976. Enfin, il y a les althusseriens à cette époque, et notamment Pierre Macheret, qui recourt au concept de production pour remplacer celui de création, concept que Bourdieu va adopter. L'œuvre est en effet le produit d'un travail et l'écrivain un ouvrier de son texte qui ne fabrique pas les matériaux avec lesquels il travaille. Je citais Macheret en 1971, et cette conception s'oppose évidemment à l'idée romantique théorisée par Sartre dans Qu'est-ce que la littérature, selon laquelle l'écrivain, en produisant, je cite, ses propres règles de production, les mesures et les critères, se différencie de l'artisan dont le travail est le produit de normes traditionnelles et impersonnelles, ce qui fait, selon Sartre, l'incarnation suprême, ce qui fait de l'écrivain l'incarnation suprême de la liberté, selon Sartre. Mais à l'instar d'Althusser, Macheret récuse en même temps une approche purement matérialiste des conditions de production. Alors le premier article de Bourdieu sur la sociologie des œuvres, je l'ai dit, c'est Champs intellectuels et projets créateurs, paru dans Les Temps modernes, dans un numéro critique du structuralisme, où il reprend cette notion sartrienne de projet créateur. Il reniera cet article comme trop interactionniste, pourtant il commence à y développer le concept de champ. À partir de 68, donc, il fait ce séminaire, c'était le séminaire de Jean-Claude Chamboret-Don, qu'il avait à l'ENS, qu'il avait invité donc, Bourdieu à animer ce séminaire, qui était ouvert à des chercheurs ou apprentis-chercheurs extérieurs à l'école, qui présentaient leurs travaux en cours. Et il expose lui-même ses premières hypothèses, les premières hypothèses de son enquête sur l'autonomisation du champ littéraire au 19e, qui débouchera bien plus tard sur les règles de l'art. Il a publié un article dans le premier numéro de Scoli, donc l'éphémère revue de l'ENS en 71. À partir de 75 et du lancement de Actes de la recherche en sciences sociales, nombre de séances vont servir à préparer des articles ou des numéros. Et là, je m'appuie sur le témoignage de Christophe Charles. Et parmi les auditeurs, normaliens ou non, certains ont fait leur thèse avec Bourdieu. Il y avait Rémi Ponton, normalien, qui a soutenu sa thèse en 75 sur le champ littéraire dans la seconde moitié du 19e siècle. Jean-Louis Fabiani, donc normalien lui aussi, agrégé de philosophie, qui engagera donc sa thèse qui donnera lieu au livre Les philosophes de la République, paru en 88, dans la collection Le sens commun aussi. Nathalie Hennig, qui soutient en 81 sa thèse sur la constitution du champ de la peinture au XVIIe siècle. Christophe Charles, qui était lui un normalien agrégé d'histoire, qui faisait sa thèse de troisième cycle sur la crise du champ littéraire à l'époque du naturalisme, sans être dirigé directement par Bourdieu, mais il a travaillé de près avec lui. Alors il y avait d'autres personnes, il y avait par exemple, je pense, Anne-Marie Thiès, normalienne agrégée de lettres, qui suivait aussi le séminaire sans travailler directement avec Bourdieu, qui travaillait sur la littérature populaire. Dans un article rédigé en 70 et paru en 71, donc cet article que j'ai mentionné dans ce colis, Bourdieu élabore sa théorie et méthodologie des rapports entre champ du pouvoir, champ intellectuel et habitudes de classe, où il se confronte aux premières publications de Sartre sur Flaubert dans Les Temps modernes, à la veille de la publication de L'idiot de la famille. Il y reproche à Sartre de ne rompre qu'en apparence avec la tradition dominante de l'histoire de l'art et de la littérature. Sartre s'intéresse aux médiations, je cite, à travers lesquelles les déterminismes sociaux façonnent l'individualité singulière de l'artiste, mais en fait il se limite aux, je cite, déterminants de classe tels qu'ils s'actualisent en se réfractant dans les particularités d'une structure familiale et d'une histoire individuelle. Il occulte, en fait, selon Bourdieu, les effets de médiation exercés par le champ intellectuel doté d'une structure déterminée. Et il lui reproche aussi de continuer à fonder son explication sur une philosophie de la conscience, sur le subjectivisme. En fait, le concept de champ lui permet précisément d'introduire ces médiations qui sont spécifiques au monde des lettres, enfin, au champ littéraire, au champ artistique, au champ de production culturelle. Et dans le numéro 200 d'Actes de la recherche en sciences sociales, on a publié les séminaires que Bourdieu a donnés au début des années 70 sur ce concept de champ, enfin, où commence à élaborer sa théorie des champs. Donc, pour le résumer très vite, parce que j'ai vraiment pas le temps de rentrer dans les détails ni dans les évolutions, mais en fait, il redéfinit à l'aide de ce concept la problématique de l'autonomie qui était discutée par les marxistes pour sortir de l'impasse de la théorie du reflet. Donc, un champ relativement autonomisé, mais ça déplace en fait la problématique marxiste, le champ relativement autonomisé se caractérise par la spécificité des enjeux, des règles du jeu, par l'autotélisme, par la référence à sa propre histoire. Trois conditions favorisent l'autonomisation des champs: l'émergence d'un groupe de producteurs spécialisés, l'existence d'instances spécifiques et la formation d'un marché. C'est un concept relationnel, chacun se définit par rapport aux autres, et topologique, le champ est structuré par la distribution inégale du capital spécifique, notamment entre les producteurs culturels consacrés, qui occupent des positions donc définies comme dominantes, et nouveaux entrants, ou les autres producteurs faiblement dotés en capital spécifique, donc capital de reconnaissance, lesquels occupent des positions dominées. Et c'est un concept également dynamique, puisque ce champ est aussi un champ de lutte entre les nouveaux entrants qui cherchent à subvertir les rapports de force existants et qui conteste l'orthodoxie défendue par les dominants. Alors, les concepts d'orthodoxie et d'hétérodoxie sont empruntés à la sociologie religieuse, la sociologie de la religion de Weber. À cette première opposition structurale s'ajoute une opposition entre le pôle le plus autonomisé du champ, celui où prévaut la reconnaissance par les pairs, et le pôle hétéronome soumis aux lois du marché ou à d'autres types de contraintes idéologiques, religieuses, etc. Alors, la théorie des champs permet d'articuler donc les conditions sociales avec les choix esthétiques, positions et prises de position. Cette théorie des champs s'articule avec la théorie des classes que Bourdieu développe dans la discussion, dans le cadre de laquelle il introduit donc le capital culturel comme deuxième facteur de différenciation de l'espace social avec le capital économique, ce qui produit une structure en chiasme. Les champs de production culturelle se situent parmi les fractions dominées des classes dominantes, celles moins dotées en capital économique et mieux pourvues en capital culturel. Et cette théorie s'articule aussi, bien sûr, avec sa théorie de l'habitus, qu'il met à l'épreuve empiriquement dans son étude sur Flaubert et l'invention de la vie d'artiste, paru dans Actes de la recherche en 75. Paradoxalement, c'est à travers la notion d'indétermination qu'il réfléchit à ses déterminations sociales, et c'est l'analyse de l'éducation sentimentale qui lui en donne la clé, puisqu'il y voit une des incarnations suprêmes de l'indétermination comme style de vie, fruit des refus d'occuper des positions ou du moins de différer le choix d'une carrière. Frédéric a de vagues velléités littéraires, et aussi comme l'envers de l'échec ou de l'incapacité sociale transformée en position élective. Ce roman incarne donc un des possibles de Flaubert, pas complètement dépassé, au moment où Flaubert et Baudelaire inventent ce style de vie artiste qui va devenir la norme du champ littéraire. La littérature procure à Flaubert un sentiment de liberté par rapport aux déterminations sociales et aux possibles qu'il ne peut réaliser. La représentation du créateur comme sujet libre, sans attache, trouve un équivalent spontané dans le dilettantisme du jeune bourgeois provisoirement libéré des contraintes sociales. Alors, cet article, c'est aussi le lieu d'une réflexion sur l'héritage, problème crucial que Bourdieu venait de traiter dans la reproduction avec Passeron. Je cite, « La tendance à persévérer dans l'être du patrimoine ne peut se réaliser que si l'héritage hérite l'héritier ». Il y a chez Flaubert un refus du sérieux que nécessite le fait d'hériter. Il veut l'héritage sans être hérité par lui, refus de se marier, d'embrasser une profession, etc. Et l'héritage, c'est, dit Bourdieu, une peau de chagrin qui rétrécit pour lui conserver sa jeunesse. Enfin, Bourdieu esquisse dans cet article, enfin il y a d'autres points mais que je n'aborde pas, la structure spatiale du champ du pouvoir qui sera reprise au début des règles de l'art. S'il affirme que le travail de sublimation effectué par Flaubert à travers la mise en forme reproduit la dénégation des rapports sociaux que Flaubert reconstitue cependant dans son roman, ce travail de mise en forme ne sera vraiment développé que dans les règles de l'art. Marielle a évoqué ce matin l'article sur Ponge. J'aurais pu aussi parler ici de son analyse de A Rose for Emily, de Faulkner, dans la dernière partie des règles de l'art, où il développe aussi une réflexion sur la réception et la double réception que suppose cette nouvelle, parce que pour le lecteur lettré, évidemment, la fin invite à une relecture, à une reconstitution, recomposition en fait, de tout ce qui s'est passé. Voilà, mais j'ai pas vraiment le temps. Donc, dans la deuxième partie des règles de l'art, Bourdieu explique en quoi le recours au concept de champ permet de dépasser l'alternative entre analyse interne et analyse externe des œuvres. Il discute longuement des théories littéraires qui, des formalistes russes aux structuralistes, se focalisent sur l'analyse formelle sans explorer les conditions sociales de leur production. Bourdieu critique aussi le réductionnisme de la tradition marxiste qui fait des œuvres le simple reflet du monde social sans s'interroger sur l'effet de réfraction qu'exercent les logiques propres au champ littéraire. La théorie du champ repose sur l'idée d'une homologie entre l'espace des positions occupées dans le champ et celui des prises de position, c'est-à-dire des partis pris esthétiques et souvent politiques. Et donc la science des œuvres requiert trois opérations, l'analyse de la position du champ littéraire au sein du champ du pouvoir, c'est-à-dire son degré d'autonomie et son évolution dans différentes conjonctures socio-historiques, l'analyse de la structure du champ littéraire selon les relations objectives entre les individus et les groupes qui y concourent pour l'acquisition du capital spécifique, et troisièmement l'analyse des habitus de ces individus et de leur trajectoire sociale, l'effet de champ ne s'exerçant pas de façon mécanique, mais étant médiatisé par l'espace des possibles tel qu'il se présente aux agents en fonction de leur disposition. Et l'espace des possibles, ça renvoie aussi à ce dont parlait ce matin, des modèles disponibles à un moment donné. Et cette démarche s'applique également aux autres champs de production culturelle. Alors, j'ai pas le temps de parler du Manet, mais on pourrait aussi reprendre là l'analyse qu'il fait du passage de l'esthétique académique au passage de l'esthétique que va promouvoir Manet, qui est une sorte de rupture, où il reprend en fait l'analyse de Mallarmé, hein, sur le fait que Manet anoblit l'esquisse, qui travaille la toile dans sa bidimensionnalité, ce qui l'amène à rompre avec les lois de la perspective et aussi avec le modèle, là le modèle en termes de modèle, et avec le modelé, il remet en cause la hiérarchie des objets aussi, qui était indexée à leur hiérarchie sociale, et privilégie la référence à l'histoire de l'art plutôt qu'à l'histoire tout court. Voilà, alors j'aurais pu aussi dans ce cadre parler du style de l'écriture de cette époque qui à mon avis était nourri aussi du nouveau roman, enfin il y a des homologies entre l'écriture, le style impersonnel, objectivant et voilà. Je dirais un mot si je peux, mais parce que Daina n'est pas arrivée donc je vole quelques minutes à la suite des travaux, enfin un bilan très très rapide. On peut dire qu'à la suite des travaux pionniers de Bourdieu et de Raymond de Moulin en France, la sociologie de la culture se répartit selon les objets de recherche entre l'économie des biens symboliques, marché de l'art, marché du livre, etc., la sociologie des professions artistiques, la sociologie des œuvres et enfin l'étude des pratiques culturelles. C'est un domaine en pleine expansion en France comme à l'étranger. Hein, il y a en ce moment deux nouveaux volumes de Sociology of Arts and Culture et Cultural Sociology qui vont bientôt paraître. Bon, je ne vais pas adresser le bilan du nombre de thèses, mais je les ai. Ce qu'on peut dire, c'est que les objets, en fait, ont évolué dans plusieurs directions. Enfin, on voit à la fois des continuités, par exemple sur les conditions de production, les questions des conditions d'autonomisation des champs de production culturelle, des instances de consécration, évidemment la sociologie des professions artistiques. Ce qui a été renouvelé dans ces approches, c'est peut-être la dimension transnationale, avec en littérature notamment la question de la circulation internationale par voie de traduction, et puis les approches postcoloniales qui ont conduit à réinterroger, par exemple, le concept de champ. Il y a évidemment les approches, les gender studies, qui ont nourri aussi une réflexion à la fois sur les professions, la féminisation des professions artistiques, et puis des questions sur l'écriture, sur les œuvres elles-mêmes et le rapport entre littérature et identité. Il y a des questions qui ont trait au rapport entre littérature, art, et ou champ littéraire, champ artistique et champ politique, et puis seulement avec le champ économique. Et puis, il y a des travaux qui se développent sur les médiateurs et les instances de médiation. On va avoir un ensemble cet après-midi sur les festivals, qui est un objet qui a été constitué vraiment comme objet sociologique autour de l'enquête d'Avignon, dont parlera Jean-Louis Fabiani, et qui donne lieu à d'autres travaux actuellement, à la fois sur le festival comme lieu d'instance de non seulement de médiation, mais aussi de débat démocratique. Enfin, ça, c'est ce que Jean-Louis Fabiani a montré dans ses travaux. Voilà. Alors, pour conclure, on peut dire que le programme initial de sociologie des œuvres a un peu pâti de l'immense travail requis pour étudier les conditions de production avant de s'atteler à cette tâche de la sociologie des œuvres elle-même. Je n'ai pas parlé du tout de la sociocritique, parce que ça se faisait ailleurs. On en a mentionné ce matin avec Claude Duché. Et justement, c'est assez significatif que c'est été séparé. Il a aussi un peu pâti de la tendance trop fréquente, je dirais, en sciences sociales. On parlait ce matin de représentation, mais chez Louis Marin, je pense que l'analyse des représentations qui s'est développée, c'est un usage un peu appauvri de représentation au sens de Louis Marin. Et donc, souvent, l'analyse des œuvres sont centrées sur l'analyse des contenus, et donc en omettant la dimension formelle dont on a souligné ce matin l'importance, alors même que, justement, Bourdieu proposait dans les règles de l'art ou dans son Manet de véritables analyses formelles, enfin, et de prêter attention à cette dimension. En fait, une certaine division du travail, on peut dire, s'est naturellement instaurée entre ceux qui étaient formés dans les disciplines littéraires ou artistiques et qui étaient en mesure de faire des analyses approfondies, parfois au détriment de l'étude rigoureuse des conditions de production, et ceux qui venaient des sciences sociales et qui se concentraient sur ces dernières. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Moi, je venais d'études littéraires. Enfin, bon, bref. Mais il y a quand même un peu une division du travail. Et cette réflexion critique que je suis en train de... Cette espèce de bilan critique ne vise surtout pas à disqualifier les remarquables avancées qui ont été accomplies, mais à plaider pour un dialogue renouvelé entre sciences humaines et sociales, voire à des formes de collaboration plus étroites, d'autant que ce dialogue n'a pas toujours été facile en raison de la défiance des uns envers les autres, pour ne pas dire le rejet. Donc il me semble qu'ici, à l'école, ce dialogue a pu se renouveler et donner lieu à des projets féconds, et aussi au-delà de l'école, et aussi au niveau international. Et donc j'espère que nous pourrons poursuivre ce dialogue. L'école est en train de... Enfin, a rejoint PS cette année, dans lequel il y a l'école normale supérieure, il y a les écoles d'art, et nous espérons aussi pouvoir nouer un dialogue avec les praticiens eux-mêmes. Voilà.
Merci beaucoup, Gisèle.
Gisèle, je trouve que dans votre présentation, il y a beaucoup de points en commun avec votre livre « La sociologie de la littérature ». Que c'est un livre dédié à vos étudiantes. Donc, je voudrais savoir quelles sont votre fantaisie d'intervention, que c'est un mot que vous utilisez beaucoup dans votre travail, intervention. Quelles sont votre fantaisie d'intervention avec votre énorme travail d'historisation et votre travail aussi pour reconstruire les états de lieux, non seulement dans la France, sur les études sociales et humaines, et aussi pour votre travail de générer des dialogues féconds interdisciplinaires entre qui venant de théorie de la littérature, de la sociologie. Quelles sont votre fantaisie votre rêve de travail?
Merci, Annalia. Je ne sais pas si on s'autorise beaucoup à avoir des rêves, mais en tout cas, on peut avoir des programmes. Moi, je pense que effectivement, ce programme au sein de l'école, je pense que ce colloque, c'est une occasion, mais ce colloque ne fait que aussi formaliser des liens qui sont des discussions qui ont déjà cours. Enfin, je sais pas, avec le grill, avec le kraal, et aussi au-delà, avec, enfin, je sais pas, moi, en ce qui me concerne, c'est effectivement plutôt les études littéraires. Donc, mais je pense que c'est la même chose pour ceux qui travaillent sur les autres arts. Il y a le dialogue existe et il est en train de se développer aussi avec les créateurs, les artistes eux-mêmes. On a créé, enfin, on a renouvelé cette année les rendez-vous littéraires de l'EHESS. Il y a eu aussi l'AQ Cinéma. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on souhaiterait que ce dialogue prenne. Je pense que les artistes aussi sont aujourd'hui un peu en demande d'une réflexivité. Ils sont moins dans la dénégation de leurs conditions sociales. Moi, j'ai actuellement une enquête pour l'Observatoire du Livre d'Île-de-France sur la reconnaissance professionnelle des écrivains. C'est une question qui se pose à eux, qui se pose aussi en termes même de gestion de leurs droits, de la manière dont ils sont rémunérés pour leurs... On s'est aperçu par exemple dans les festivals que les seuls qui n'étaient pas rémunérés, c'était les écrivains. Voilà. Alors donc il y a une association qui s'est constituée, mais tout à l'heure Myrtille Picot et Jérôme Pacouré parleront de l'enquête qu'on a réalisée sur le festival de Manosque. Donc le festival de Manosque s'est constitué comme a initié une association, l'association Relief, pour revendiquer ces interventions soient reconnues comme des droits d'auteur, parce que c'est aussi ça la question, c'est comment on rémunère et tout ça. Alors évidemment, il y a des festivals qui sont bénévoles, qui n'ont pas les moyens, donc et donc je pense que nous on est là aussi pour voilà étudier les conditions. On est consulté sur ces questions. Bon, on n'a pas toujours des réponses claires, mais je pense que ça nous interroge. Et je pense à la journée qui a eu lieu hier, organisée par l'IORA Israël, qu'on développe aussi en ce moment à l'école Cloucipo, c'est-à-dire le travail avec les milieux associatifs, avec les mouvements, avec pour essayer de développer des échanges. À la fois, ils nous proposent des sources, des données, ils nous proposent et ils souhaitent aussi avoir un échange, une discussion. Et je pense que ça, voilà, ça c'est... Évidemment, pour moi, il est très important, puisque tu as mentionné les étudiants, je pense qu'il est très important, et c'est aussi pour ça que les doctorants sont présents dans ce colloque et présents de leur recherche. Ils font partie des laboratoires, ils font partie de l'école, sur la vie de l'école, et ils participent à ces enquêtes. Voilà.
Gisèle, je voudrais te poser une question. À un certain moment, tu as parlé, et ça me semblait évidemment très important, du fait que Bourdieu peut difficilement, et je suis tout à fait d'accord, être compris sans ses rapports avec le nouveau roman. Les rapports avec le nouveau roman, c'est à la fois des rapports personnels, avec pas le nouveau roman en général, mais Robe Grillet en particulier, me semble-t-il. Et puis évidemment, c'est la communauté de publication aux éditions de Minuit, entre Le Sens Commun et l'ensemble des auteurs du nouveau roman. Pour prolonger peut-être une question que j'ai entendue tout à l'heure, la question que je pose, c'est de savoir quels seraient les écrivains aujourd'hui avec lesquels des gens comme toi, des sociologues comme toi, pourraient être en rapport. Si je dis ça, c'est parce que moi, je suis à l'inverse surpris que depuis 2002, enfin depuis la mort de Pierre Bourdieu, les seuls écrivains qui me semblent apparaître dans les travaux sociologiques sont des écrivains qui eux-mêmes se réclament de Bourdieu, alors que c'est peu de dire que Robe Grillet ne se réclamait pas de Bourdieu, c'est peu de dire que Robe Grillet n'était pas vraiment un auteur dont le sujet était le monde social. Tu seras d'accord avec moi? Bon, voilà. À l'inverse, je vois toujours Annie Ernaux, Bergugno qui disent « Pierre Bourdieu m'a tout appris », etc. Bon. Mais le problème, à mon sens, c'est... Enfin, quels seraient, selon toi, les écrivains qui, aujourd'hui, ont le plus à apprendre à la sociologue que tu es, en dehors de ceux qui disent « j'ai tout appris de Bourdieu » et qui font des fois, selon moi, du mauvais Bourdieu dans leurs livres, alors que le rapport avec Robe Grillet est quand même fondateur, je crois, de beaucoup de choses. Voilà.
Oui, merci Jean-Pierre. Oui, enfin, moi je dirais pas qu'ils font de la mauvais usage de la sociologie, hein, voilà. Mais simplement, je pense, évidemment, je pense que tu as en tête des auteurs comme Echenoz, comme Olivier Cadieux. Alors Olivier Cadieux, j'ai fait une soirée avec lui à la Maison de la Poésie l'année dernière. Voilà, il y a des auteurs. On a fait récemment une soirée avec la Maison de la Poésie dans le cadre des rendez-vous littéraires de l'école avec Camille Laurent sur la réflexivité. En janvier, Éric Deluca est venu. Bon, il y avait j'enlève aussi la dimension là du procès qui avait trait à son engagement en fait en faveur des militants non TAV, donc les militants contre la construction du TGV Nice-Turin parce qu'il avait il est poursuivi pour incitation au sabotage parce que dans un entretien il a dit ils saboteront et donc voilà c'est saboté enfin il s'agissait évidemment de couper les grillages et de c'est pas de dévier des trains puisque le train n'existe pas encore voilà mais il tombe sous le coup d'un procès avec un risque de 5 ans de prison ferme oui il y a beaucoup d'auteurs qui effectivement du point de vue en tout cas de renouvellement des formes et qui à mon avis ne sont pas des formalistes et qu'on considère à tort comme des formalistes parce que ce sont des écrivains qui interrogent les formes routinisées du langage et on a parlé de ce matin du storytelling et du récit et justement la semaine dernière il y avait un colloque sur fiction littéraire contre storytelling. Moi j'utilise pas le terme de fiction parce que c'est justement j'ai parlé de poésie à ce colloque parce que c'est pour moi c'est pas la question de la fiction, c'est plus la question de la littérature et comment la littérature peut justement défamiliariser, déconstruire en fait ces modèles routiniers qu'on nous impose quotidiennement via les médias. Alors, je pense que le travail que Echnoz fait sur la langue, par exemple, de déconstruction, il apporte beaucoup à la... Alors après, bon, en termes de diffusion, évidemment, c'est pas la même chose que Houellebecq, mais bon, voilà. Je pense que ça apporte plus à la déconstruction de nos catégories de
pensée. Pour dire autrement, la question, c'est celle que posait ce matin en citant, mon Dieu, Marielle Massé, quand elle parlait de la phrase, mon Dieu, se comparait à Schoenberg. Les écrivains intéressants sont ceux qui font ce que Schoenberg pensait d'un livre, voilà. Et pas ceux qui disent, ouais, j'ai demandé à savoir.
Non, mais je trouve intéressant que des écrivains se réclament de Bourdieu, et je pense que ça fait partie aussi du dialogue qu'on essaie de nouer ici. Hein. Moi, je porte pas de jugement de valeur négatif là-dessus. Au contraire, moi, ce sont des écrivains qui m'intéressent, mais voilà.
Je m'intéresse pour la sociologie littéraire des formalistes russes, et qu'on connaît pas très bien, parce qu'en fait, c'était tardif, et puis il y avait le tournant de l'avènement de Staline qui a tout arrêté à peu près, mais il y avait donc la fin des années 20 qui était explosive dans ce sens-là, et surtout les élèves de formalistes ont beaucoup publié sur les salons littéraires, sur le commerce du livre, etc. Et le livre de Shuking a été traduit en 1928 en Russie, La sociologie du goût littéraire. Et donc ça m'a intrigué ce que vous avez dit, parce qu'apparemment il y a une réception un peu plus tardive de ces travaux ailleurs qu'en Allemagne et en Russie. En Russie, c'est une réception qui n'a pas eu lieu presque, parce que c'était trop tard. Est-ce que vous pourriez un peu mieux situer ces travaux, ces études dans l'avènement de la sociologie littéraire de l'après de la Deuxième Guerre mondiale?
Oui, merci de cette question. Je crois que j'aurais pas le temps vraiment de développer. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire et c'est intéressant. Moi, je savais pas que Shuking a été traduit en 28. C'est, en même temps, si j'y réfléchis, c'est extrêmement cohérent par rapport à tout le travail incroyable que les formalistes étaient en train de développer. Mais dans les deux cas, aussi bien des formalistes que de la sociologie de l'art qui se développait en Allemagne, en fait, ce sont les conditions politiques et ça amène exactement à la thématique de cet après-midi qui ont empêché et obstrué la circulation en fait de ces travaux et même empêcher ses travaux. Alors Shuking, lui, il est resté, il n'est pas parti. Bon, je pense qu'il a prêté serment et tout ça, mais sans être vraiment, sans adhérer. Il y en a d'autres, donc Panofsky, lui, il est parti. Bon, pour les formalistes, on sait que, voilà, Jacobson est parti. D'autres. Alors la circulation est beaucoup plus tardive et c'est lié à ce moment de renouvellement aussi de la théorie littéraire en France dont parlait Lucille Dumont ce matin. Donc cette importation est aussi liée à ça. Shuking, c'est autre chose. Selon moi, ça passe par Mannheim, la publication, et je pense que Bourdieu l'a lu, enfin, je sais qu'il l'a lu en anglais, puisqu'il le cite à partir de cette édition-là. Voilà. Mais ça, c'est typiquement une question sur la circulation internationale qui est passionnante et qui fait partie des nouvelles approches pour penser non seulement les objets de nos études, mais aussi nos disciplines elles-mêmes, quoi.
Restons toujours autour de l'objet littéraire. Et Daina Ribar, merci de nous avoir rejoints. Daina a co-organisé le colloque au nom du GRIL, donc de ce groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire, et vous êtes auteur d'un ouvrage, Raconter, vivre, penser, histoire de philosophe, et donc vous allez nous parler, en tant qu'historienne aussi, des rapports entre histoire et littérature.
Merci. Je prends le micro. Je commence par des excuses pour mon arrivée tardive, tout à fait indépendante de ma volonté. Voilà. Alors j'ai donné à cette présentation, c'est facile à voir je pense, le titre d'un article célèbre de Roland Barthes, un article célèbre et même peut-être rebattu. Hein. Il y a un article relativement récent d'un professeur de littérature qui s'appelle Jean-Louis Janel qui note que dans la question des rapports entre histoire et littérature, on cite toujours 4 articles. L'article de Lançon sur le programme d'études littéraires, l'article de Fèvre et puis cet article de Barthes et celui de Genette sur aussi formalisme. Et voilà. Donc un article célèbre et peut-être rebattu donc de Roland Barthes qui a été publié dans les Annales en 1960. En fait, je n'ai utilisé que le début du titre puisque la suite est à propos de Racine. Voilà, à propos de Racine. Mais l'anniversaire de l'École des hautes études en sciences sociales a été aussi l'occasion de rendre hommage hier à un enseignement emblématique de la 6e section de l'EPHE puis de l'EHESS. Et après tout, cet article, en effet, à la fois manifeste et programme, manifeste et reprise d'un programme, réélaboration d'un programme, pouvait être regardé comme une sorte de guide pour observer ce qui s'est passé ici entre histoire et littérature, ou pour dire les choses de manière beaucoup moins surplombante, qui correspond mieux à ma propre position, ce que l'histoire pratiquée à l'EHESS fait avec la littérature. Différentes choses que l'histoire pratiquée à l'EHESS fait avec la littérature. Alors Barthes propose, on le sait, un partage des rôles aux uns, qu'il n'appelle pas littéraires, l'étude de la création littéraire, étude qui ne peut être, selon lui, que d'ordre psychologique, interprétative, hein, psychologique, c'est-à-dire interprétation de la création comme procédant d'une psychologie. Aux autres, aux historiens, l'étude de ce qu'il appelle l'institution ou de manière plus complexe, excusez-moi, la fonction littéraire. Et c'est à eux, selon lui, c'est aux historiens, de poser la question dont la réponse ne peut être que sociologique, qu'est-ce que la littérature ? Donc il dit qu'il y a des philosophes qui la posent, mais voilà, c'est aux historiens que revient de poser la question qu'est-ce que la littérature ? Et d'y répondre. Alors, on va voir demain, en particulier, que des historiens, notamment depuis une demi-douzaine, peut-être une dizaine d'années, ont pris le chemin qui ne leur était pas désigné, voire qui leur était interdit par Barthes, le chemin qui consiste à partir des œuvres littéraires reconnues comme telles, en tant que création, et à étudier leur manière d'interpréter, de connaître et de faire connaître leur temps, selon différentes approches, qui se reconnaissent plutôt désormais comme cognitives que comme psychologiques. Le terme est évidemment tout à fait, enfin je ne sais pas, peut-être tout à fait désuet, mais voilà, qu'est-ce que les œuvres littéraires, et elles seules, ou elles spécifiquement par rapport à d'autres types de savoirs avec lesquels elles s'articulent, bien ou mal, savent et nous font savoir du social ou du temps, ou de l'histoire elle-même par exemple. Qu'est-ce qu'elles comprennent du social en tant qu'elles sont des créations littéraires ? Et pourrait-on ajouter, que ne savent-elles pas ? À ça, Barthes a une réponse, il dit que souvent ce que les œuvres littéraires connaissent le moins, c'est elles-mêmes. S'il y a quelque chose qui échappe à la connaissance de l'auteur et de l'œuvre, c'est l'œuvre. Alors d'autres historiens ne se sont pas tenus à l'étude de ce que les organisateurs, les 5 organisateurs de ce colloque, ont assez modestement appelé en préparant le programme, les conditions de production et de circulation de la littérature. Ou même ne se sont pas tenus à ce que Barthes appelait, selon une formation qui a l'intérêt d'être encore plus dénaturalisante, l'institution ou la fonction littéraire. Hein, j'ai repris cette formulation tout à l'heure. Cette fonction qu'il compare à la fonction magique dans les sociétés à magie. On ne peut la saisir, cette fonction magique, qu'à travers les individus qui l'exercent, les sorciers, écrit-il, puisqu'elle n'est pas fixée par des lois écrites. Et il en est effectivement de même des écrivains, là où on croit à la littérature. Mais c'est la fonction seule qu'il s'agit de connaître, et pas les sorciers ou pas les écrivains. Alors, et effectivement, nombre de travaux d'histoire à l'EHESS, et bien au-delà de l'EHESS, bien sûr, étudient pour reprendre nos termes, la production et la circulation des œuvres de littérature, ou pour reprendre les termes de Barthes, la production, la communication et la consommation des livres de littérature et d'autres objets qui ne sont pas toujours des livres, qui ont à voir avec la littérature, mais qui ne sont pas toujours des livres, ou des œuvres de littérature, mais aussi étudient ou ont étudié la production de la littérature elle-même comme activité, comme norme de l'écriture, comme une des normes de l'écriture parmi d'autres, normes possibles de l'écriture, comme type de publication aussi. Donc, des travaux multiples étudient donc la production des œuvres ou des livres de littérature, mais aussi la production de la littérature elle-même, tente de répondre à cette question, qu'est-ce que la littérature, dans le temps long ou dans le temps court, et ses différentes fonctions sociales dans le temps long ou dans le temps court. Alors je vais passer par un exemple, là, enfin un exemple historique. Un des auteurs que Gisèle Sapiro connaît bien, et c'est aussi une manière de rendre hommage à son livre sur la responsabilité de l'écrivain, qui est Paul-Louis Courier, en 1824, donc un publiciste politique des années 1820-1830, met en scène dans un libraire éditeur qui vient effectivement de participer à sa condamnation, tout à fait effective, comme pamphlétaire politique. Et Courier, donc il met en scène ce libraire qui vient de voter sa condamnation à quelques mois de prison, et il raconte qu'il a demandé à ce libraire imprimeur ce qu'il aurait fait, comment il aurait voté au tribunal, si lui, Courier, avait publié, par exemple, des livres de plus de 100 pages. En fait, il emploie les termes techniques, il parle en termes de feuilles d'imprimerie. S'il avait publié des livres de plus de 100 pages, des gros livres. Alors l'homme répond qu'il aurait lu ces livres, au cas où Courier aurait publié des livres de plus de 100 pages, à ce moment-là, il les aurait lus pour déterminer s'ils étaient ou non condamnables, car politiques. Mais qu'il n'a pas eu besoin de le faire, de les lire, puisque ce que Courier a publié, ce sont des brochures, et donc des pamphlets, donc par nature, des choses condamnables. Voilà. Alors, Courier, dans ce que je suis en train de décrire, qui est une brochure intitulée « Le pamphlet des pamphlets », vous voyez, le pamphlet hyperbolique, pour ainsi dire, le pamphlet par excellence, lui parle alors à ce libraire des provinciales de Pascal. Il dit « Mais les provinciales de Pascal, c'était des brochures, c'était des pamphlets. » Et le libraire se récrit « Mais comment pouvez-vous ? Les provinciales de Pascal, c'est un chef-d'œuvre de la littérature, plus encore, c'est un chef-d'œuvre de la langue française, c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Bon. » Alors, ceci pour dire que simplement une des définitions de la littérature dans les années 1820, c'est-à-dire plus exactement, plus précisément, une de ses fonctions, c'est d'être ce qui n'est pas pamphlet. Voilà. C'est d'être ce qui n'est pas pamphlet, c'est d'être tout ce qui n'est pas pamphlet. À un moment où une autre de ses définitions, une autre de ses fonctions, c'est aussi d'être tout ce qui n'est pas philosophie. Ce sont deux fonctions qui sont simultanées, en quelque sorte, qui sont contemporaines. Alors, vous voyez que l'histoire du livre et de l'imprimé, et des différents supports imprimés, dans leurs dimensions les plus concrètes et techniques, l'histoire de l'histoire littéraire, voilà un point de repère sur ce qu'est Pascal, voilà, en 1800, c'est assez tôt en fait, hein, par rapport à ce qu'on sait de l'histoire littéraire. Ce qu'est Pascal, ce que sont les provinciales de Pascal, voilà, à ce moment-là. Donc, vous voyez un marqueur, justement, alors même que ce sont des pamphlets, un marqueur du littéraire. Et donc, l'histoire du livre et de l'imprimé, l'histoire de l'histoire littéraire et l'histoire politique, avec en son cœur la question qu'est-ce que dépolitiser ? Comment ça marche, hein, dépolitiser, comment ça marche politiser, comment ça marche dépolitiser, hein, se rejoignent ici pour produire cette fonction sociale de la littérature, à ce moment-là. Alors, pour comprendre ces implications, pour mesurer la manière dont elles pouvaient structurer l'expérience sociale, pour reprendre les mots de la présentation du colloque, pour comprendre la manière dont elles pouvaient structurer la littérature, l'expérience sociale, ou la perception du monde dans les années 1820, aussi jusqu'où elle pouvait les structurer. jusqu'à quelle profondeur du monde social elle pouvait les structurer. Donc, pour comprendre également la manière dont cette fonction de la littérature a pu agir au-delà de ce temps court, en amont ou en aval, il faut évidemment mobiliser bien des sources qui ne sont pas immédiates. Il faut produire des contextualisations larges, plus étroites. Il faut en effet faire de l'histoire pour comprendre. Alors, mais à partir de ce type d'objet et d'analyse historique, que j'ai voulu très ponctuelle à dessein, des cheminements s'ouvrent qui n'ont pas, qui se sont ouverts, continuent à s'ouvrir, ne cessent de s'ouvrir, qui n'ont pas pour objectif, ou plutôt qui n'ont pas pour seule fin, au sens où elle s'achèverait là, de répondre à la question d'histoire, donc, à la question très feuilletée qui est qu'est-ce que la littérature ? Donc, ce que j'ai donné comme exemple, c'est ça, c'est une manière de répondre dans un certain temps court, mais aussi c'est susceptible d'être inscrit dans une assez longue durée, qui est la littérature, c'est tout ce qui n'est pas pamphlé. Bon. Jusqu'à quand ? Depuis quand ? Jusqu'à quand ? Bon. Mais donc, il y a des cheminements qui s'ouvrent, qui n'ont pas pour seule fin, qui ne se terminent pas à la réponse à la question d'histoire. Qu'est-ce que la littérature ? Qu'on peut reformuler. Comment c'est advenu la littérature ? À quel moment peut-on considérer que c'est advenu ? Et aussi, comment est-ce que ça advient sans cesse ? Puisque au moment où Courrier travaille avec la question du rapport entre le gros livre de littérature et le petit pamphlet, évidemment, on peut dire que la littérature, c'est ce qui a été maintes fois étudié. On peut considérer que la littérature est tout à fait advenue, qu'on sait ce que c'est que la littérature. Mais on voit bien que c'est le fait qu'existe simultanément des fonctionnements qui font que la littérature, c'est tantôt tout ce qui n'est pas pamphlet, tantôt tout ce qui n'est pas philosophie, ça montre que ça advient aussi sans cesse. Hein. On peut aussi redire ça, comment ça se découpe, la littérature, dans la masse des écrits qui paraissent à un moment, où ça s'arrête, hein, où est-ce que ça ne s'arrête pas. Et aussi, qu'est-ce qui en sort ? Qu'est-ce qui y était à un moment et qui en sort à un autre moment ? Qu'est-ce qu'on y fait entrer alors que ça n'était pas peu de temps auparavant, par exemple. Hein. Donc, ces cheminements, ils vont au-delà de cette question comment ça se produit, comment ça se communique, comment ça se consomme la littérature, pour poser d'autres questions. Alors, je vais simplement modifier. Donc cette question d'histoire, qu'est-ce que la littérature ? Cette question qui est posée comme question d'histoire, qui est traitée ici comme question d'histoire depuis longtemps. Je vais la modifier pour essayer de signaler comment fonctionnent ces cheminements. Alors, ça peut devenir, de manière assez simple, qu'est-ce que ça fait la littérature ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait ou a fait à telle ou telle société, dans tel état de société, que des choses écrites, que des choses puissent effectivement se transmettre parce qu'elles ont été écrites par des individus, par un individu, pour être lues par d'autres individus. Voilà. Qu'est-ce que ça fait à une société, le fait que des choses puissent se transmettre parce qu'elles ont été écrites par un individu, dans son point de vue d'individu, pour être lues, dans l'idée qu'elles seraient lues, que ça advienne ou pas, par d'autres individus, et qu'est-ce que ça fait à une société, le fait que cela se sache ? Que des choses écrites par un individu, pour être lues par d'autres individus, cela se sache que ça peut être transmis, effectivement, et lu, effectivement. Et ce qui est une manière, on pourrait employer la formule magnifiquement suggestive de Barthes, qu'est-ce que ça fait à la société, hein, ce que lui appelle l'institutionnalisation de la subjectivité, qui est la définition qu'il donne pour finir des techniques, voilà. Littéraire en particulier. Donc, voilà. Et la question, qu'est-ce que ça fait à la société que cela se sache ? Évidemment, ça ouvre immédiatement sur une autre, c'est comment ça se sait ? Bon, alors voilà, comment ça se sait, par exemple, au milieu du XVIIe siècle, où ça se sait ? Que des choses écrites par un individu, pour être lues par d'autres individus, pourront effectivement être transmises. Ça, c'est assez loin dans le monde social, en fait. Assez loin du milieu professionnel des littérateurs. Autre reformulation de la question d'histoire, qu'est-ce que la littérature qui se pratique ici, ça serait qu'est-ce que ça a fait à tel événement qu'il se soit écrit ou publié de la littérature pendant son déroulement. Non pas qu'il se soit écrit ou publié de la littérature sur lui, mais qu'il se soit écrit ou publié de la littérature, des choses de littérature, pendant son déroulement même. Ou qu'il puisse s'en écrire, ou que des gens qui ont à voir avec le déroulement de cet événement sachent qu'il est possible que s'écrive de la littérature pendant le déroulement même de l'événement, le prenant en charge, le commentant, l'interprétant dans le cours de son déroulement lui-même. Ce qui est une question très différente, très très différente, hein, de celle des sources littéraires sur les phénomènes ou les événements du passé. Question des précautions, vous savez, longuement discutées que les historiens doivent prendre pour se servir de ces sources littéraires, et ce qui est aussi une question très différente de celle de la connaissance littéraire de l'événement ou du phénomène. Question qui se pose par exemple à une très large échelle pour la Révolution de 1848, dans laquelle, et non après coup, il y a toute la littérature sur la littérature, toute la littérature sur l'impact de leur lecture littéraire sur les manifestants ou leurs représentants, par exemple, ou qui se pose à une échelle par exemple, bien moins ample, et pour une autre période, sur ce qui s'appelle, pour l'histoire, la prise de pouvoir de Louis XIV, au début des années 1560. Dans la prise de pouvoir de Louis XIV dans les années 1560, il y a des sources, hein, qui sont des sources administratives ou politiques. Il y a des gens qui écrivent que le roi est en train de travailler dans son conseil, tout seul. Hein, et ça, ce sont des sources administratives ou politiques. Et il y a absolument simultanément à côté, mais qu'est-ce que ça veut dire à côté, des lettres privées, qu'on dira privées, qui racontent sur le mode de la mélancolie amoureuse le même événement. Et il y a des objets qui seront publiés plus tard, comme des romans, mais qui ne sont pas publiés à ce moment-là, et qui sont absolument à côté. Et la prise de pouvoir de Louis XIV, c'est tout ça. Et dans la prise de pouvoir de Louis XIV, il y a le fait qu'il s'écrive des romans et des lettres qu'on dira privées, où il est question de mélancolie amoureuse. Voilà. Qu'est-ce que ça fait au scandale d'une bataille très meurtrière que ceux qui en sont les témoins, même si ils peuvent en être éventuellement des acteurs, puissent écrire de la poésie pendant, ou immédiatement, ou juste quand la bataille vient de se terminer, avec l'idée qu'elle sera lue. Donc il me reste 5 minutes et pour décrire ce que j'essaie de décrire. Hein. Ce que j'essaie donc de caractériser, c'est une, ou plutôt des démarches historiennes qui englobent, qui se sont, disons, qui ont aussi une dizaine d'années, disons, qui englobent, qui sont celles qu'en particulier on développe dans ce groupe de recherche sur l'histoire du littéraire, c'est une de ces démarches qui consiste à englober l'interrogation sur le fait littéraire comme fait de l'histoire, sur la production, sur la communication, sur la consommation des livres de littérature, et donc qui englobe l'interrogation sur la présence de la littérature dans l'histoire, ou à l'histoire en quelque sorte, dans des questionnements dont la littérature n'est pas l'objet, dont la littérature n'est pas la fin, en quelque sorte, dont des questionnements d'histoire sociale ou d'histoire du pouvoir politique, dont vous voyez, qui englobe bien l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que la littérature dans sa présence à l'histoire, dans toute sa richesse de faits techniques, sociales, politiques, comme moyen, enfin, dans la manière dont elle intervient dans ce qu'il s'agit d'interroger, qui sont des phénomènes d'histoire sociale ou d'histoire politique. Alors j'aurais voulu, mais je n'ai pas le temps, de développer la manière dont l'histoire du livre, qu'on peut décrire comme une histoire concrète, des supports, des matériaux, des objets et de leur impact sur la consommation des écrits de littérature, est en même temps tout autre chose, justement, et fait partie de ces cheminements qui, à la fois, prennent en charge la question d'histoire, qu'est-ce que la littérature, et la question de l'institutionnalisation de la subjectivité, pour poser des questions, par exemple, de l'inscription des faits, de l'archivage, de l'écriture administrative, de l'ensemble des écrits présents dans le monde social et actifs dans le monde social. Je vous remercie.
Et
avez parlé d'un exemple dans les années 1820. Et en fait, je lis de temps en temps quelqu'un qui s'appelle Évariste Galois, qui a vécu entre 1811 et 1830. Et si on prend ses écrits, bah, finalement, je ne m'étais jamais interrogé peut-être que qu'est-ce qu'il y a comme littérature à l'intérieur. Et c'est très étrange, puisque c'est, on dit qu'il a ouvert les mathématiques modernes. C'est très étrange que, si ça se trouve, voilà, il y a beaucoup de littérature, parce que moi, j'ai essayé de le lire, il est toujours, même aujourd'hui, il me semble très, très difficile à lire quand on a peut-être une formation scientifique. Donc j'ai l'impression que là, il y a peut-être une autre manière de l'aborder, et donc ce que vous avez dit montre qu'il y a peut-être aussi au sein des mathématiques, en l'occurrence, puisqu'il ouvre le champ mathématique, quelque chose de cette fonction quelque chose de la littérature qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir le décrypter et mieux le comprendre. Quand il envoie son texte à l'Académie française, si ça se trouve, il a été mis de côté parce qu'il est considéré pas comme texte vraiment peut-être mathématique ou scientifique, mais peut-être comme un texte littéraire et curieusement peut-être comme un pamphlet, je sais pas, ce qui fait qu'il est mis sous le boisseau pendant un moment. Voilà, bon, c'était juste une réaction vis-à-vis de et un espèce d'autre exemple, puisqu'après il y a eu des récits, il y a eu des films, il y a toute une continuation sur Évariste Galois.
À l'Académie des sciences, je suppose, il envoie son...
Oui, il l'envoie à l'Académie des sciences, mais les gens qui le reçoivent, il y a l'Académie des gens qui reçoivent son écrit, bon, il est... on ne sait pas s'il est perdu, s'il est mis en attente, si en fait il n'est pas compris. Il n'est pas compris apparemment par la personne, le perpétuel, enfin, qui doit s'occuper. Il le lit, peut-être il le lit en scientifique de l'époque, je ne sais pas qui il était, mais s'il l'avait lu autrement que simplement comme livre, voilà...
Il y a une recherche, il y a un livre récent, le livre de Caroline Erhardt sur Évariste Galois, justement. Et donc voilà, qui effectivement prend en compte, je pense, des questions, parce qu'il y a la particularité d'être non seulement un fondateur en mathématiques, mais aussi quelqu'un de mort très jeune. Et donc je pense qu'une partie de la recherche dans ce livre est un travail sur, effectivement, en quelque sorte, toutes les collaborations, enfin tout ce qui contribue à faire d'Évariste Galois ce qu'il est pour l'histoire des mathématiques. Je pense qu'il y a une contribution, effectivement. Je pense que votre langue a fourché sur Académie des sciences, Académie française, mais il y a bien quelque chose de l'académisme et le fait de s'adresser aux académies dans le cas de, enfin, je pense, là, je m'appuie sur Caroline Erhardt, hein, dans le cas d'Évariste Galois.